pourrait regarder toutes les préfigurations du mystère de Marie dans l'Ancien Testament. C'est sûrement une chose très belle à faire. Mais si on a le temps, on y reviendra. Mais je voudrais plutôt prendre tout de suite le mystère même de Marie, du côté de sa grâce, auprès des préfigurations. Vous voyez, je vais vous citer la question d'Abraham avec la servante et la femme libre. Ce très grand mystère que la femme libre, Sarah, est stérile. La stérilité de Sarah, la stérilité de Sarah fait passer devant la servante. Et ça enseigne beaucoup de choses. Hein. Ça enseigne que si Dieu, quelquefois, met un mal pour permettre à un autre inférieur de passer devant. Il y a tout un enseignement dans le gouvernement divin. Vous voyez, heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Le jeu de la sagesse, puisque la sagesse joue, la science pas, mais la sagesse joue, c'est-à-dire que la sagesse a des souplesses que nous ne pouvons pas comprendre avec notre raison. On les comprend que par la souplesse de l'intelligence liée à l'amour. L'amour maintient une très grande souplesse à l'intelligence. Et c'est la souplesse de la sagesse. Alors c'est sûr, il y a quelque chose de très mystérieux du fait que la servante est stérile et permet, je veux dire, la femme libre et stérile, et permet à la servante de passer devant. Et lorsque la servante est passée devant, la femme libre rejoint le féconde. C'est sûr que nous avons là un exemple très grand du gouvernement divin. Oui, Abraham, il fait ce qu'il peut. Et Dieu le conduit. Alors, évidemment, ça montre la relativité des lois morales, bien qu'elles ont un fondement naturel. C'est ça la très grosse difficulté. Et que, à la différence des lois théologales, des principes de théologie, qui eux sont éternels, même la morale est humaine et relative par le fait même. Il n'y a pas d'absolu. Vous avez alors comme préfiguration de Marie toutes les femmes héroïques de l'Ancien Testament. Et tout toute femme héroïque de l'Ancien Testament préfigure Marie. Et elle serait intéressante à étudier. Cette femme héroïque à propos de Jacob. Isaïe et Jacob. La bénédiction. Là, on voit bien que c'est la mère, c'est la qui permet au Benjamin d'usurper le droit d'aînesse. Quoique, ce n'est pas une usurpation, puisque, de fait, l'aîné avait vendu son droit d'aînesse. C'est très curieux et c'est très complexe. Et comme dans toujours les préfigurations ne nous permettraient pas d'inventer les choses, puisque c'est mis dans un filigrane très particulier. Mais il y a là quelque chose de très très spécial, le rôle de la mère. Affermi son fils qui n'aurait pas osé agir tout seul, et aussi la mémoire de la mère, parce que le fils avait oublié qu'il avait gagné le droit d'aînesse. C'était comme perdu, tandis que la mère l'avait gardé. Là aussi, il a fait vraiment comprendre dans le mystère de Marie, où Marie garde dans sa mémoire tous les faits de Jésus. Puis il y aurait Esther. Aussi un rôle très grand. Judith, bon, je ne les vois pas. C'est pas du tout parce que je trouve que ça n'a pas d'importance. Ça a beaucoup d'importance et ce serait très intéressant à faire. Je prends tout de suite Marie qui est au fond. Et le sommet, et je crois que c'est ça qu'il faut dire, c'est le sommet du gouvernement du Père. Le Père a gouverné Marie comme aucune autre créature. Jésus, il est Dieu. N'a pas à être gouverné. Il se laisse conduire pour nous en donner l'exemple. Mais tandis que Marie, elle a eu une croissance. Donc elle était vraiment conduite par le Père. Et Marie est le sommet du gouvernement divin. Divin n'est pas plus grand dans l'Église qu'il n'a été dans Marie. Marie reste le modèle. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Parce que elle est le modèle, et donc le gouvernement divin a connu en Marie, et Marie a connu le gouvernement divin d'une façon unique. Et nous devons regarder Marie pour comprendre de la manière la plus parfaite le gouvernement divin. C'est en Marie que que le vraiment divin s'est manifesté de la manière la plus forte. C'est ça que nous essayons, que nous allons essayer de voir. Et le vêtement divin regarde d'une façon principale la croissance de la charité, la croissance de la grâce, la croissance de la charité et de la grâce, la croissance de l'espérance et de la foi. Donc, nous allons essayer de comprendre cette croissance en Marie. Il n'y a qu'en Marie où cette croissance a été parfaite. Parce que dans tous les autres, cette croissance n'a pas été parfaite. On ne peut pas dire qu'en nous, la croissance de la charité, la croissance de la grâce est parfaite. Nous avons perdu du temps. Nous avons pris des voies qui n'étaient pas tout à fait ce qu'on aurait dû prendre. Et chacun de nous. Donc, la croissance, la perfection du gouvernement divin, du Père, n'a pas pu se réaliser en nous pleinement. Tandis qu'en Marie, tout ce que je découvre du gouvernement divin est parfait, est le modèle de toutes les autres croissances. Ce n'est pas l'Église qui est le modèle de Marie. C'est Marie qui est le modèle de l'Église. Vous voyez, c'est très curieux. Ça ne va pas dans le sens de l'évolution. Dans le sens de l'évolution, nous sommes plus évolués que Marie. La nature humaine en nous connaît une évolution plus grande. Et c'est vrai. L'évolution, c'est du côté de la croissance, c'est du côté quantitatif. En Marie, sa croissance de la charité est parfaite qualitativement. La grâce s'est développée en elle de façon parfaite qualitativement, pas quantitativement. C'est curieux. Le gouvernement du Père, dans sa manifestation, s'est manifesté de la manière la plus parfaite en Marie. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très très spécial de Marie avec le Verbe, Marie avec le paraclet. Alors, première remarque que nous devons faire. Marie est immaculée. Donc, plénitude de sa grâce, dès le point de départ, a été parfaite. Tout s'était développé parfaitement, mais nous n'en savons rien. Alors, je crois que cela, c'est aussi aussi très important de se le rappeler. Et que la naissance de Marie, la conception de Marie, la naissance de Marie, nous n'en savons rien. C'est un secret, le premier secret de notre vie chrétienne. Un secret. Cette vie que Marie a connue avant l'Annonciation reste un secret. Elle est descendante d'Abraham. C'est la seule chose que nous sommes. Descendante d'Abraham. Elle est née, nous ne savons pas où. La date de sa naissance, ignorée. L'Église a mis la date de la naissance de Marie, le 8 septembre, le 8 septembre, oui. Et on a dit, ces dernières années, qu'il aurait fallu la changer, c'est sûrement pas le 8 septembre. Nous n'en savons rien. Donc, la conduite du Père est cachée au point de départ et le terme. C'est quand même très significatif. Alors, quel est le sens pour nous de cette conduite du Père est cachée au point de départ et au terme? Pour connaître parfaitement un mouvement, il faut connaître son point de départ et son terme. On sait que la grâce de Marie est une grâce qui a grandi à croissance. Marie a grandi dans son amour de Dieu toute sa vie. Je ne sais pas son point de départ, je ne sais pas son terme. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout a un sens dans la conduite de Dieu. Si Dieu a caché la naissance de Marie, a caché le terme de sa vie, cela a une signification pour nous. Je n'ai pas le droit de dire que c'est le hasard. Non, c'est voulu par Dieu. Surtout quand il s'agit de Marie, et même pour nous, rien n'est laissé au hasard. Alors pour Marie, rien n'est laissé au hasard. Alors je crois, c'est personnel, ça me pose, il n'y a pas beaucoup de théologiens qui se posent la question là-dessus. Alors on doit se la poser. La parole de Dieu et les silences de Dieu. Il n'y a pas que la parole de Dieu. Dieu nous éduque par ses silences. Nous savons bien, heureusement. Dieu nous éduque par ses silences et par sa parole. Et Dieu a voulu que pour celle qu'il aime le plus, il aime le mieux de toutes les créatures, dont la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité est parfaite, sans aucune bavure. On ne sache pas le point de départ, ni le terme. Je crois. C'est pour nous montrer que nous n'avons pas de sagesse historique. Mais c'est très important aujourd'hui, puisque certaines, même des personnes importantes, disent que l'histoire sainte et sagesse, et Dieu nous montre que le seul lieu où l'histoire pourrait être sagesse, c'est en Marie. Jésus n'a pas grandi dans la sagesse, dans sa grâce. Donc, il y a tout de suite eu une plénitude de grâce. Donc, c'est en Marie qu'il pourrait y avoir une sagesse de la croissance de la foi, de l'espérance, de la charité. Et Dieu a caché les deux points de départ et le terme. Je crois, c'est pour que nous comprenions que la sagesse qui pourrait être donnée dans la croissance en Marie, Dieu la garde pour lui. Quand nous serons dans l'au-delà, dans la vision béatifique, nous saurons où Marie est née, à quelle date elle est née, et où Marie a terminé sa terre, à quel endroit. Parce qu'actuellement, il y a plusieurs endroits, parce qu'on ne sait pas. Éphèse, au mois de Jean, dont Dieu dit à Jérusalem. À Jérusalem, il y a l'Assomption, la mort de Marie catholique et la mort de la Marie protestante, orthodoxe. Mais, on ne sait pas. Ça reste secret. Je crois que ça, c'est voulu par Dieu. Ça, c'est évident, c'est pas un oubli. C'est voulu par Dieu. Et pour nous enseigner quelque chose de très précis. De faire que nous dépendons de son bon plaisir quand il s'agit de l'histoire. Donc, ça réduit énormément le point de vue de la sagesse. Il n'y a pas de sagesse historique. La seule sagesse historique qu'on pourrait avoir, c'est dans la vie de la Sainte Vierge. Mais Marie n'a pas écrit Histoire d'une âme. Elle n'a pas écrit Histoire d'une âme. Elle n'a pas mis ses petits carnets avant la rencontre de Joseph, ce serait délicieux d'avoir ces petits carnets là. Et il y a silence, Dieu. Là, ce n'est pas un oubli, c'est une volonté de Dieu qui doit nous apprendre quelque chose. Marie apparaît tout de suite pour le mystère de l'Annonciation. Le mystère de l'Annonciation est donc un point de départ pour le mystère de la grâce en Marie. C'est le point de départ de sa grâce chrétienne. Avant ça, Marie vit comme une petite juive parfaite. Et je n'en sais rien, je ne sais rien. C'est très étonnant. Hein. Les histoires de rois ou d'héroïdes, de grands. L'humanité garde le plus qu'elle peut les renseignements sur la première éducation. Et là, je n'en sais rien. Je sais qui est sa mère, qui est son père. C'est déjà quelque chose. Anne est une sainte très sympathique. Mais on raconte beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on sait ? Tout de suite, l'histoire, au point de vue connaissance que je peux avoir de ma sagesse chrétienne, c'est ce premier contact de Marie avec Dieu. Et l'histoire d'Abraham, on dit Dieu a parlé à Abraham. Et on ne sait pas non plus l'histoire d'Abraham. Point de départ, simplement de mort clôture. Et on sait ce fait important de l'Annonciation. Là, je sais quelques détails. Dieu a parlé à Marie comme il a parlé avec Abraham, mais il a parlé avec Marie par l'intermédiaire d'un ange. Marie puisse donner son acquiescement, dire ce qu'elle pensait, ce qu'elle voulait. Dieu a parlé à Marie pour lui demander si elle acceptait d'être la mère du Fils du Très-Haut. Alors, il y a toujours là quelque chose qui me semble merveilleux, étonnant. Marie, petite juive, Anne et Joachim, a sûrement été éduquée dans une tradition très pure. Elle était immaculée. Ça, je le sais, mais elle est immaculée, ça ne m'apprend rien du tout sur l'effet contingent de l'évolution de sa foi. Ça veut dire seulement que elle a été gardée par Dieu, conduite par Dieu d'une façon unique. Rien me permet de dire que Marie pouvait soupçonner le mystère de la très sainte Trinité. Il me semble au contraire qu'en petite juive, très servante, très fervente et très bien éduquée, vivait du monothéisme. Donc, le mystère de la très sainte Trinité a été révélé à l'humanité par Marie. Il a été révélé à une jeune fille aimée de Dieu d'une façon unique. Le mystère de la très sainte Trinité n'a pas été révélé en premier lieu aux grands prêtres ou aux docteurs de la loi. Il a été révélé à une petite fille de Dieu. C'est quand même très important de voir ça. Que Dieu communique son secret de Dieu, secret divin, le secret de la famille divine. Il communiquait à Marie de cette manière particulière qui fait que Marie va entrer dans cette famille comme mère du Fils bien-aimé. C'est très inouï de voir comment Dieu révèle le mystère propre de sa vie. C'est cette manière dont il le fait. Plus grande simplicité. Et la plus grande force. Il le révèle en demandant à Marie si elle désire, si elle accepte d'être mère. Révéler la fécondité de Dieu, révélée en Dieu, l'existence du Fils, la révélée à la créature en lui demandant d'être elle-même mère de celui qui est éternellement engendré par Dieu. C'est une manière admirable de s'adapter. On ne peut pas s'adapter mieux pour entrer dans le mystère de la fécondité divine que de faire que Marie puisse vivre de cette même fécondité. Entrer dans ce mystère par cette expérience, dans sa foi. oublie trop facilement ça. Et voyez comment le théologien devrait enseigner. Parce que là, Dieu enseigne ce qu'il y a de plus secret dans la théologie. Ce qui est de plus secret dans la théologie, c'est le Verbe. Et le Verbe est révélé à une petite fille, une jeune fille, en lui demandant si elle accepte d'être mère du Verbe. Alors, Dieu envoie l'ange dire cela à Marie. Il ne donne pas de détails, hein. Il ne parle pas du Verbe, il dit son Fils. C'est intéressant de voir que saint Thomas, dans la Somme, quand il commence le traité de la Très Sainte Trinité, il commence par le Verbe, en disant que le Verbe est Fils. Dieu a révélé autrement. Il a révélé son Fils, qui est le Verbe. On doit se demander pourquoi. Toujours, le théologien pose des questions à Dieu. Et c'est vrai, saint Thomas, théologien merveilleux de la Très Sainte Trinité, c'est ce qu'il y a de plus grand dans saint Thomas, c'est le traité de la Très Sainte Trinité. Saint Thomas a commencé par la question du Verbe qui est fait. Et le Père, par l'ange Gabriel, commence à enseigner à Marie le Fils. Et il a révélé que le Fils est Verbe. Mais je ne sais pas quand. Sans doute, ça avait été révélé à Jean. Avant, à la grande révélation de l'Apocalypse, l'agneau. Je crois qu'on doit être attentif à ça. Le théologien s'intéresse aux mœurs de Dieu. Et Dieu, en se révélant, nous apprend ses mœurs. Et de temps en temps, le théologien ne peut pas imiter Dieu dans ses mœurs, dans ses manières d'être, parce qu'il n'a pas l'intelligence et l'amour de Dieu. Alors il prend un autre ordre. Et on doit être attentif à saisir ça. Et quand il s'agit de la Très Sainte Trinité, donc il s'agit du sommet de la théologie ne peut pas aller plus loin. Reçoit cette révélation venant de Dieu avec la plus grande simplicité. Elle se tait. Elle, qu'on avait éduquée au monothéisme le plus pur, mère, qui était une sainte femme, une sainte mère, reçoit cette révélation d'une façon parfaite, c'est-à-dire sans bavure, sans hésitation, avec la plus grande simplicité. Le mystère le plus sublime est reçu avec la plus grande simplicité. Marie n'a pas discuté. Elle n'a pas dit à l'ange « Non, je ne comprends pas. Dieu n'a pas de fils. Et Dieu, non. » Marie n'a pas hésité. Le passage du monothéisme à la très sainte Trinité dans le cœur de Marie c'est fait de la manière la plus simple. Parce que la foi est une connaissance d'enfant. Une connaissance très simple. Dieu a révélé à Marie autant que le savoir. C'est Marie qui a révélé ça. Marie a dû le révéler. C'est Luc qui nous rapporte ça, mais Marie n'a pas connu. Luc n'a pas connu Marie. On ne peut pas le dire. Tandis que Marie a connu Jean. Ça, on le sait. Et donc, ce secret de Marie, elle tient comme un secret. Marie ne l'a pas révélé à Joseph. Elle l'a révélé à Jean. Parce que il lui était donné comme fils. Le fils avait le droit de savoir le secret de sa mère. Il faut regarder ça avec un regard très simple. Parce que c'est le commencement de la révélation chrétienne qui est faite entre le Père par Gabriel à Marie. Et le Père s'est servi de Gabriel pour que Marie soit plus libre. Ce n'est pas dit ça, je le dis. Marie a un tel sens de Dieu. Marie, en face de Dieu, l'adore. Et Marie, si le Père avait directement révélé à Marie qu'il avait un fils et qu'il lui donnait son fils, Marie aurait reçu dans une extase. Elle n'aurait plus été libre. Il fallait que l'acte de l'acte de foi chrétienne, le premier acte de foi chrétienne, soit absolument libre. l'habitude, n'impose jamais la foi. Il l'impose toujours. C'est ça qu'on doit toujours ajouter. Si nous avons la foi, c'est que Dieu nous l'a donnée gratuitement. Et veut que nous exercions la foi librement. On n'exerce pas la foi à coup de bâton. On l'exerce librement. Et Dieu a été gardien de la liberté de Marie par Gabriel. Marie est la reine des anges. Hein. Elle est la reine de Gabriel. Donc, elle n'est pas intimidée devant Gabriel. Elle a la plénitude de grâce. Mais même si elle ne le sait pas, si elle n'a pas conscience psychologique, elle le sait. Et elle le vit par le fait même de la manière la plus vraie. Donc Marie n'est pas intimidée par l'ange. Elle est reine des anges. C'est pour ça que le Père livre son secret à Marie par l'ange. Dieu aime de se servir de nous pour que celui à qui on essaie de comprendre l'action de Dieu garde toute sa liberté. Et c'est pour ça, du reste, que Dieu n'a pas envoyé le grand prêtre auprès de Marie. Il n'a pas révélé d'abord au grand prêtre. Le grand prêtre aurait intimidé Marie. L'ange n'intimide pas Marie. Elle est bouleversée, parce que c'est le passage d'un monde à l'autre, c'est forcé. Chaque fois qu'un ange vous parle, vous êtes bouleversé. Parce qu'il y a le passage d'un monde angélique et de notre monde, qui sont deux mondes juxtaposés, continus d'une certaine manière par la foi. Mais de monde qui se développe parallèlement dans le Christ, dans Marie. C'est très beau de voir cette délicatesse du Père d'envoyer son ange auprès de Marie pour lui révéler ce mystère qui est tellement son mystère. Marie entre dans le mystère de la très sainte Trinité comme mère du Fils bien-aimé. C'est magnifique. Hein, faire ce passage du secret de Dieu au secret de la petite créature. D'avoir trouvé ce métaxu merveilleux, la maternité de Marie. En même temps, ça donne à la maternité humaine une espèce de splendeur, de dignité. Normalement, la parole, c'est l'intelligence. Et la philosophie, la théologie, l'exercer à travers ce qu'il y a de plus noble en nous, que la foi demeure vraiment ce qu'elle est et que nous pouvons l'exercer dans une liberté complète.